Bonjour messieurs, dames et bienvenue à notre rendez-vous économique du week-end. Panorama économique revient cette semaine sur le cri de détresse des opérateurs miniers du Manima qui se voient frappés par la loi américaine de Trump, dite loi Obama, qui concerne les minerais de l'Est. Alors qu'aucun site minier du Manima n'est sous contrôle d'un quelconque groupe armé, nous y reviendrons. Et puis les ex-agents de l'entreprise minière Sengamin dans le Kasaï oriental ont continué cette semaine d'exiger de cette entreprise la paye de leur arriéré de salaire et de décompte final. Nous en parlions mercredi et nous y revenons aujourd'hui. Dans le panorama économique de cette semaine également, la signature de plusieurs protocoles d'accord jeudi entre la Corée du Sud et la RDC dans plusieurs secteurs économiques. Nous y reviendrons. Eric Munga, président de la Corporation des miniers à la Fédération des entreprises du Congo, section Katanga, est notre invité. Il est au bout du fil depuis la ville cupricière. Eric Munga, bonjour.
Bonjour, madame.
Également dans ce studio pour présenter cette émission, Nicole Ngaka. Nicole, bonjour.
Bonjour, Agathe.
Et tout de suite, les dossiers de la semaine.
Panorama économique, les dossiers.
Le premier dossier de la semaine, je vous le disais, c'est le cri de détresse des opérateurs miniers du Manima.
Oui, le ministère des Mines sur place relaie justement ce cri de détresse. Patrick Amissi Loupia, ministre provincial des Mines, province du Manima, était notre invité lundi. On l'écoute.
Chaque fois quand on parle de la crise à l'est de la République démocratique du Congo, on généralise et on prend en compte directement l'ancienne Kivu. On dit que depuis un certain temps, l'ancienne Kivu a été éclatée en trois provinces autonomes et différentes. Il y a la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu et la province de Maniema. Toute la communauté internationale considère toujours la province de l'Est comme une province en zone trouble. C'est ainsi que la loi Obama qui visait les minerais qui seraient ici de cette partie de la République démocratique du Congo comme des minerais qui viendraient dans des sites occupés par des groupes armés. Je vous affirme ici, il n'y a aucun site de la province de Maniema qui est occupé par un groupe de Maniema. Nous avons demandé, mais on peut envoyer une équipe de monitoring qui peut visiter tous nos sites pour venir vérifier au lieu de se contacter avec des déclarations à la presse, aux médias. La province de Maniema, elle est accessible aujourd'hui.
Oui, on sait que la loi américaine, la loi de Trump, voudrait que les minerais en provenance des zones de l'Est soient certifiés. Mais est-ce que ce processus de certification a déjà commencé dans la province du Maniema?
Madame, nous entendons toujours. Nous avons participé à plusieurs ateliers à Kinshasa. Nous avons demandé que les gens des écrits à qui on a confié ce travail puissent venir débuter avec ce processus. Mais on ne les voit pas toujours. Et nous avons appris qu'ils seraient déjà dans la province du Katanga, dans le nord Katanga. Mais c'est à côté de chez nous, ici. Pourquoi ils ne viennent pas?
Éric Munga, vous êtes notre invité, bien que nous vous joignons par téléphone depuis Lubumbashi. Vous commentez et analysez avec nous l'actualité économique. Êtes-vous du même avis que les miniers du Maniema?
Exactement, madame. Le ministre des Mines de la province du Maniema a quand même survolé un problème fondamental, c'est la méconnaissance de la République démocratique du Congo par les experts qui vont à tort ou à raison parler au nom du Congo dans ces grandes conférences. Pour votre petite histoire, ça fait un bon bout de temps que ces tractations c'est au niveau mondial.
Oui.
Et même les minerais de base, des métaux de base, cuivre, cobalt, étaient visés par cette loi. Vous pouvez imaginer, même au niveau du Katanga, on allait mettre le cuivre, le cobalt dans cette loi. Ça de montrer d'une grande capacité des experts, soit à nuire à la République démocratique du Congo, ou insuffisance d'informations sur la République démocratique du Congo. C'est une république assez vaste, et les réalités qu'il y a au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de la République ne sont pas les mêmes. Par contre, si on fait juste un petit travail professionnel de savoir d'où vient, où va, qui est là, qui n'est pas là. Je crois que cette confusion n'aurait pas dû l'être. On a parlé d'électrique et de choses au niveau de la province de Katanga. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été menés. Je pense, par exemple, le premier vice-président de la FEC qui s'occupe des trois pays. On appelle les trois pays, donc ce qui est Colombo Tantanet, le ministre de l'Affaires et de l'Ofami, qui était partout dans toutes ces réunions à travers le monde pour essayer de faire comprendre à tout le monde entier que les réalités sont différentes. Et ils ont réussi, avec l'aide de l'ITRI qu'on a trouvé aussi au front et quelques autres ONG, de commencer à s'installer. Ils ont commencé par la province de Katanga.
C'est-à-dire que là-bas, au Katanga, le processus de certification se passe bien.
Pour les minéraux salifères, oui, il se passe, il se déroule tout un cycle, il y a des exportations qui s'effectuent à partir du Katanga. Peut-être avec cette expérience, on va juste les étendre dans les autres provinces assez rapidement. Et je compatis avec le ministre de Maïoma, c'est que logiquement, comme un on devait s'installer aussi à très court terme. Et aussi commencer l'effort de pacification qui est en train de se faire au niveau de la République, au niveau de l'Est, nous les opérateurs économiques, nous le sentons.
Oui, je vous coupe un peu la parole, excusez-moi.
Vous parlez de voir un peu tout ça en qualité de fait, mais il y a beaucoup d'efforts, circulant un peu partout dans toute la région, il y a beaucoup d'efforts qui s'effectuent en RDC, il faut quand même le reconnaître.
Oui, alors Eric, on a juste une précision. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des échanges, des rencontres avec les opérateurs miniers du Maniema?
À vrai dire, du Maniema, nous n'avons pas encore eu formellement. Oui, par contre, avec le Nord Kivu, là, au niveau de la FEC, d'abord, au niveau de la FEC, nous prenons tous les pays, au niveau de la Commission nationale de Nîmes, mais les gens du Maniema, nos collègues du Maniema, nous n'avons pas encore eu de contact tout à fait formel à ce stade, et nous invitons à ce qu'ils viennent encore davantage au niveau de la FEC pour mieux encadrer et se battre ensemble pour arranger un peu ce problème.
Et tout de suite, le deuxième dossier, nous sommes dans le Kasaï oriental en Mbujimayi. Les ex-agents de l'entreprise minière Saint-Gamil continuent à exiger de cette entreprise la paye de leur arriéré de salaire et leur dépense finale. Nous en parlions mercredi, rappelons que 1500 agents de cette entreprise avaient été mis de côté lors de la faillite de cette entreprise. Suivons plutôt le rappel des faits dans ce dossier de Billy Van Lutuma.
Je voudrais tout d'abord préciser que c'est la deuxième fois que les ex-agents Saint-Gamil haussent le ton pour revendiquer leurs droits. Les ex-agents Saint-Gamil estiment qu'il y a de la mauvaise foi de la part de leur employeur et du ministre congolais des Mines, Théodore Lukusa, président du comité des ex-travailleurs de la Saint-Gamil.
Le tribunal nous a déjà donné raison. Nous avons le jugement, nous avons le tout. Depuis 2009, jusqu'alors, nous demeurons toujours l'actuel DG de Skim, quand il produit. À qui il fait le rapport? Au ministre? Tout ce qu'il produit, ça va être au pire niveau, au niveau national. Mais c'est celui qui est au niveau national, ça c'est. Ils ne peuvent pas nous laisser dans cette circonstance.
Mais comment réagit le ministère congolais des Mines et la Saint-Gamil elle-même, les mines qui sont mises en cause?
Au ministère congolais des Mines, le directeur de cabinet affirme que le ministère ne retient pas le décompte final de ses agents. Il rejette par contre la balle dans le camp de la liquidatrice et qui gère le contentieux Saint-Gamil. Contacté, madame Maître Anisha rassure et appelle une fois de plus les ex-agents à la patience. On l'écoute.
Ils n'ont pas à s'agiter parce qu'ils seront payés. Il y avait eu quelques emplois, mais on est en train de s'appeler pour essayer un peu de débloquer cette situation. L'argent ne va pas provenir de la Chine. Nous devons faire la part des choses. La Chine a une autre personnalité juridique. La Saint-Gamil, c'est sous la Saint-Gamil. Effectivement, la Chine travaille dans le même association pour travailler la Saint-Gamil. Mais ce n'est pas une continuité. Avec la SKIM, nous avons un contrat de location simplement. Mais en définitive, nous devons vendre le bien de la Saint-Gamil pour liquider le bec.
Avant de clore ce dossier à Guette, nous aimerions signaler que nous avons vu enfin l'administrateur directeur général adjoint de la Saint-Gamil. Celui-ci n'est reconnu aucune créance due aux ex-agents de cette entreprise minière.
La première tâche du nouvel opérateur, le Saint-Gamil, qui n'était pas à effet de payer les créances laissées par l'ancien opérateur, dont la première privilégiée était celle des travailleurs. C'est dans ce cadre que tous les 1500 travailleurs, chacun individuellement, a signé un accord transactionnel pour une séparation consensuelle. Exactement le 22 mars 2006.
Agathe, malgré cette mise au point de la DGA, les ex-agents restent convaincus que la Saint-Gamil est dans le devoir de s'acquitter de son devoir de payer les arriérés.
Eric Monga, vous êtes de la corporation des miniers du Katanga. Une autre réalité du secteur minier dans le Kasaï oriental, vous avez suivi ce dossier, est-ce que vous avez un commentaire?
Oui, oui, madame, je crois que nous sommes à l'intersection de trois voies.
Ouais.
D'un côté, les travailleurs réclament que ce qui est l'ordre constitutionnel. De l'autre côté, l'ancien employeur dit avoir déjà payé dans une transaction qu'ils ont fait avec les agents. Et le troisième, la liquidatrice, estime que c'est un processus qui doit aboutir. Je crois qu'il faut laisser quand même le temps et permettre tout à fait le dialogue jusqu'à arriver à la solution. Si déjà, d'un côté, ils peuvent se mettre sur la table pour vider complètement, si le tribunal a donné raison d'un côté qu'on doit payer, on ne sait pas quels sont les jugements dits dans ce sens-là, l'employeur dit qu'il a déjà payé la transaction civile, le liquidatrice dit que c'est un processus. Je crois qu'il faut quand même laisser le processus évoluer dans une situation tout à fait apaisée pour dégager les responsabilités des uns des autres si ça a déjà été payé, Si ça n'a pas encore été payé, ça ne sera fait. Je crois que ce sont des cas classiques que nous connaissons à travers le monde.
Donc ça dépend des accords qu'ils ont initialement signés.
Les accords sont passés, oui, les accords sont passés et les accords signés doivent être respectés.
Et le troisième dossier, un forum d'affaires qui a réuni à Kinshasa hier au moins 200 personnes, dont une centaine d'hommes d'affaires sud-coréens. Oui, la rencontre entre le chef d'entreprise, investisseurs sud-coréens et les membres de la Fédération des entreprises du Congo SEC a débouché sur la signature de plusieurs accords d'investissement dans le domaine de l'énergie, des échanges commerciaux et dans le domaine de l'exploitation des ressources naturelles. Parmi les entreprises qui ont signé ces accords figurent notamment la Vicamine, la Sodimico et le groupe George Forest International. Un accord d'études conjointes a également été signé entre la Congolaise des hydrocarbures, Coido, et la Korean National Oil Corporation pour l'exploitation du pétrole congolais. Je sais également que Séoul voudrait investir également dans la construction des infrastructures, dont un port en eau profonde à Banana, dans le Bas-Congo, en échange du gaz et du pétrole congolais. Le temps pour nous de retrouver Eric Monga, notre invité. Autant d'accords signés, une bonne nouvelle pour l'économie congolaise, vous pensez?
Très très bonne nouvelle, surtout que le Congo n'a pas toujours les finances nécessaires pour transformer ses ressources en argent liquide pour le bien-être de toute la population.
Oui.
Alors, au lieu d'évoluer en vase clos, il est bon en loi de prendre des partenaires qui peuvent venir pour essayer de contrat win-win pour que les gens puissent développer et son corps retrouve son compte là-dedans. J'ai vu des mines qui ont été touchées, les hydrocarbures, les infrastructures, l'agriculture, et tous ces secteurs auront comme effet d'entraînement les services, l'emploi, le social, ainsi de suite. C'est quitte à nos deux parties respectives de poursuivre et d'arriver au bout de ces accords. Alors, c'est à nous, Congolais, à nous, dirigeants congolais, de faire appliquer correctement tous ces accords qui sera bénéfique pour toute la population, pour le développement de la République. Notez que moi, je suis du partisan, ça c'est un engagement pour cette personne, je suis partisan de ces accords avec les pays, les pays émergents, les dragons de l'Est là-bas, parce que dans leur contrat, dans leur accord, il n'y a pas autant d'embûches, il n'y a pas autant de difficultés subjectives. Je peux parler des difficultés de nature subjective.
Contrairement à qui vous pensez là
classique. Au contrat classique, je parle du contrat classique peut-être avec les institutions de Bretton Woods, où il y a des clauses des droits de l'homme qui sont difficilement cernables. Des causes difficilement fermables, vous voulez savoir. Alors, si nous pouvons aller avec des contrats qui peuvent nous rendre plutôt bénéficiaires de la population très rapidement, je crois que pour l'instant, pour le Congo, on
a besoin. Mais nous estimons qu'il y a quand même de quoi être quelque peu sceptique. Nous avons vu, il y a quelque temps, le président Sarkozy venir avec une délégation d'hommes d'affaires également et signer plusieurs contrats également. Mais au finish, on n'a pas vu beaucoup de choses qui ont abouti. L'ambassadeur français Pierre Jacquemot qui partait est parti quelque peu déçu en relevant ça. Qu'est-ce que vous en disiez?
Nous donnons rendez-vous dans une année. Alors, on compare une année avec les Français, une année avec les Coréens. Là, on peut tirer des solutions. Mais mon avis personnel, c'est que je suis très optimiste quant à ce genre de contrat. Il faut un peu plus lent. Ça va sûrement aboutir d'un jour à l'autre. Mais pour l'instant, nous sommes en phase où le time is money, où on a besoin d'avoir beaucoup d'argent.
Oui. Nous savons que souvent, bon nombre de gens le disent, les termes de ces accords, les termes de sens, ne sont pas toujours très clairs.
La notion de la clarté d'un contrat dépend d'un intérêt de celui qui le juge. Quelle est la qualité de la personne qui juge? Quelle est la qualité de la personne qui doit donner un aval à un contrat? Vous savez, est-ce que vous pouvez me donner les canons ou les critères, les normes d'un contrat bien pour que ce ne soit pas clair? Et regardez bien ces normes. Est-ce que ce sont des normes applicables à tout le monde ou des normes des gens qui veulent vous verrouiller pour que vous restez toujours dans un état de sous-développement ou dans un état de dépendance d'eux? Et jusqu'au même au point où des gens sont allés dire, avant de faire un quelconque contrat par l'air de fil, nous devons donner notre aval. Qui sont ces gens-là?
Mais en fait, il ne faut pas qu'on brade nos richesses.
Mais non plus, on ne doit pas non plus avoir une mauvaise opinion de nous-mêmes. Nous sommes indépendants, nous sommes congolais et nous devons accepter que nous devons mener notre pays comme nous le voulons. Où est l'intérêt de la population? C'est là que nous devons conduire nos deux. Quel est l'intérêt de notre population? Et nous devons demander des comptes à nos dirigeants pour l'intérêt de notre population et non pas à une quelconque institution quelque part qui croit de bienfaisance qui va nous mettre dans un état de dépendance extrême.
Panorama économique, chaque samedi à 12h30, Radio Okapi vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie de marché, les développements des entreprises, l'impact des décisions du banque sur la vie économique, c'est Panorama économique.
Les autres infos de la semaine, l'exportation des produits miniers concentrés doit être strictement proscrite. Correspondance de Martin Kabouiloulou datant du 20 juin dernier. Vous avez suivi de près le dossier depuis le Katanga. Quel est votre avis à ce sujet?
Merci beaucoup, madame. Je crois que la lettre du ministre des Mines adressée au gouverneur de province à ce sujet est basée sur un ratio, un indice en termes de valeur absolue. Soit disant que X tonnes de métaux a produit autant d'argent, X tonnes de concentrés a produit autant, c'est un peu faible, alors il faut proscrire. Je crois que les gens qui ont cette conclusion, venant du cabinet, je crois, des finances au niveau du Premier ministre, et qui ont transmis au niveau du cabinet du ministre de Mines, ont fait, à notre avis, une erreur assez grossière parce que les comparaisons se font en termes de ratio ou en termes relatifs et non pas en termes absolus.
Donc vous n'estimez pas que pour la RDC, il serait...
Les prémices ont été mal posées.
Oui.
Et malheureusement, ça mène aussi à une mauvaise conclusion.
Vous savez, ce que je voulais dire, c'est que vous n'estimez pas que pour la RDC, il serait plus bénéfique d'exporter des produits avec une plus-value plutôt que d'exporter des concentrés.
Non, prenons l'hydroxyde de cobalt qui est un concentré, est un produit à l'état qui se consomme en 7 états. Toutes les couleurs métallisées que vous voyez, donc pour vos véhicules, pour les peintures, ainsi de suite, c'est à ce niveau-là que ça se consomme. On n'a pas besoin d'aller à un métal à ce niveau-là. C'est ça même le produit, c'est ce concentré-là qui est consommé comme ça. Et le marché est grand pour cela. Si on le bouge chez nous, d'autres faisons on fait le lit d'autres opérateurs économiques qui vont gagner beaucoup d'argent là-dessus.
Donc les décisions devaient être un peu mieux étudiées selon vous et ne pas être généralisées à tous les minerais.
Voilà, il faut faire un modèle économique pour savoir de quoi. Par contre, le concentré de cuivre, on n'a pas besoin d'exporter le concentré de cuivre, on a besoin d'exporter le cuivre tout métal. Le concentré de cuivre rapporte un peu moins que le cuivre métal. Pour cela, nous devons aller au métal. Ça, c'est normal. Ça veut dire qu'il faut encore, comme je vous dis, une étude plus approfondie sur terrain au lieu de conclure sur base de valeurs absolues. En concentré, pour faire une tonne de cuivre, il faut un minimum de 5 tonnes de concentré de cobalt. Ça veut dire que toute proportion prise, les concentrés qui ont été exploités ont rapporté plus à l'État que même les métaux. Donc ça veut dire qu'on faut réfléchir en termes de proportion et non pas en termes de valeurs absolues.
Dans les minutes du Katanga ont fait apparemment un lobbying solide à ce sujet.
Ce n'est pas une question de l'ICI. Nous avons beaucoup de collaborations et d'échanges de vues avec les autorités. Il suffit juste d'avoir une séance de travail et puis par après, on se comprend à deux niveaux en avance. Parce que n'oubliez pas que nous sommes tous dans le même panier et nous voulons tous vers une seule dynamique, ça veut dire la RDC. Mais n'oubliez pas que les miniers de la République sont dans une corporation. Et c'est la corporation, on parle avec la corporation. Les concentrés sont des produits qu'on appelle affinés, des produits qui peuvent se vendre en l'état.
Mm-hmm.
Et il faut vraiment bien faire la part des choses avant de
prendre une telle décision.
Panorama économique, matière première.
Rubrique matière première revient cette semaine sur le ciment, Nicole.
Effectivement, actuellement, se vit dans la ville de Kinshasa un contraste au niveau du prix. Le ciment produit localement coûte plus cher que celui importé. Qu'est-ce qui est à la base de ces disparités de prix, suivant plutôt son reportage, David Kalinda.
Le ciment importé de la Chine et de la Turquie coûte entre 12 et 13 dollars et demi, tandis que celui produit à quelques kilomètres de Kinshasa coûte 14 dollars, voire 14 dollars et demi. Les revendeurs et dépositaires du ciment local se plaignent de cette différence de prix qui ne leur permet pas d'écouler leurs produits. Ils affirment que le facteur prix pousse les consommateurs à se ruer tous vers le ciment importé. D'autres affirment même que si ces disparités de prix se creusent davantage, il y en a parmi eux qui mettront la clé sous le paillasson.
Le prix des ciments des pays est élevé par rapport au ciment importé. Nous, vraiment, on calcule tout prix, puisque l'État a dégénéré le ciment importé par rapport au ciment primaire. C'est pour ça qu'on est en train de subir ce que l'État a fait.
Mais il ne pense que, oui, besoin de foutre une sous bataille sur terre. Mais il fallait que le ciment a besoin de foutre une bataille. Ce besoin de foutre une bataille, il fallait arrêter comme un âne cher par rapport à eux. C'est normal.
Selon le directeur financier de la de Lukala, la mesure de défiscalisation totale du ciment prise par le gouvernement au mois de mai dernier favorise le marché du ciment importé au détriment de celui produit localement. Hugues Toto, directeur financier de la Silo.
Le ciment importé, c'est un ciment qui est exonéré de toutes les taxes. Il paye évidemment les frais portuaires et ce ciment-là est à la consommation. Nous trouvons devant deux produits qui sont obligés d'être sur le même marché avec des conditions différentes. Le ciment produit localement paye toutes les taxes. Pour produire le ciment, c'est nous importons beaucoup de choses. Nous prenons les taxes sur ça et nous prenons les taxes sur la consommation, notamment l'ICA, fonds de promotion d'industrie, toute une série de taxes. C'est que vous avez un ciment importé qui est ravi et qui aurait de certaines taxes à la consommation et nous sommes importés des taxes à la consommation. Mais le ciment importé n'est pas les droits de consommation, c'est nous prenons les droits de consommation.
Hugues Toto affirme que si la cimenterie de Lukala devrait aussi bénéficier des allègements fiscaux, le sac de ciment silo serait ainsi vendu à 11,5$ au lieu de 14 comme c'est le cas actuellement.
Si aujourd'hui je suis exonéré de toutes les taxes sur la vente, hein, et quelques intrants que j'ai ciblés. Aujourd'hui, on baisserait notre prix de plus ou moins de dollars. Le prix actuel que vous constatez, ça serait ça, le prix à 43 exactement. Aujourd'hui, ça rendu des pots, le prix de vendre les ciments à 12.
En attendant que les cimenteries congolaises obtiennent leur défiscalisation comme ils le souhaitent, les importateurs du ciment se frottent les mains.
Éric Monga, nous rappelons encore une fois nos auditeurs que vous êtes président de la Corporation des Miniers à la Fédération des entreprises du Congo, section 400. Alors, après avoir suivi ce reportage de David Kalinda, qu'est-ce qui pourrait finalement sauver, je dirais, le ciment produit localement?
L'état de la question est assez intéressante. Je suis tout à fait d'accord avec de ce photo pour ses conclusions. Ça veut dire qu'il faut défiscaliser aussi l'industrie locale pour qu'elle puisse se permettre, enfin qu'elle ne meure pas. Mais où est l'industrie locale? Combien de cimenteries fonctionnent encore au niveau de la RDC? N'oubliez pas que la RDC n'est pas seulement Kinshasa.
Oui, mais
comme qu'est la production du ciment au Katanga, qu'est la production dans Dindou, en province orientale, nord Kivu, sud Kivu, circulez un peu dans la République, vous allez voir que la mesure que l'État a prise a beaucoup plus une visée
pas que les importateurs se frottent les mains, mais c'est beaucoup plus que la population ait accès à un emprunt qui peut se permettre de construire le ciment.
Mais est-ce que ça ne désavantage pas aussi?
D'accord, on peut aussi défiscaliser les producteurs locaux. Chez nous, heureusement que chez nous, c'est maintien. Et aussi, je crois qu'à Bimba, mais chez les autres, c'est manqué de beaucoup. Bon, elle n'existe plus, on n'en produit pas, mais pourtant, nous avons les matières premières pour le faire. Mais en attendant qu'on construise une usine de ciment, il faut permettre aussi à la population de construire son bien-être.
Oui, bien sûr. Mais Eric,
c'est la population aussi.
Éric Manga, s'il vous plaît, est-ce que ça ne désavantage pas aussi un petit peu quand même les producteurs locaux? Les autres, on allège carrément les taxes, mais pas pour eux. Ceux qui produisent localement, ça décourage quelque part.
Je crois qu'il ne faut pas voir dans ce sens-là. Ça veut dire que les producteurs locaux devraient aussi se mettre à un moment de décision pour essayer un peu d'arracher les avantages leur dévolu. Si la production locale était suffisante pour absorber la consommation locale, ça s'expliquerait à 100%. Si la production locale est encore insuffisante, il chercherait des mécanismes fiscaux, comme l'a conclu M. Pito, pour essayer d'avoir encore plus de faveurs et qui serait même en deçà un peu plus de faveur par rapport au ciment importé, et leur prix serait même en deçà par rapport au prix importé. Mais l'objectif globalisant de cette mesure est de permettre à toute la population de la RDC de pouvoir se relancer dans la reconstruction de son pays et suivre un de vos reportages en bougeant de ça que $50, comment est-ce que vous allez construire? Et par contre, on devrait aussi encourager les industries locales à investir dans les ciments.
Panorama économique, très important.
Ils sont nombreux les Congolais à vouloir obtenir un crédit, et tant pis si le montant qui leur est accordé est au-dessus de leurs moyens. Mais le problème, c'est qu'après, ils se révèlent parfois incapables de rembourser dans les délais impartis par leurs créanciers. Défaut d'information ou exploitation pure et simple, Dako Pambikila nous présentait ce reportage jeudi dernier, on l'écoute.
Cédric Mavakala est commerçant à Kinshasa. Il y a quelques mois, il a contracté un crédit de $400,000 américains auprès d'une institution de microfinance dont il a préféré taire les noms. Ces prêts devaient lui permettre de développer son commerce dans la vente des boissons alcoolisées. Aujourd'hui, ce jeune opérateur âgé d'une trentaine d'années a fait faillite. J'avais contracté un crédit, j'avais pris $4,000. À ces $4,000, ils m'ont donné une échéance qui ne m'a pas permis de rembourser l'argent. On m'a donné l'échéance de 6 mois. Alors, chaque fois que j'ai remboursé, j'ai touché même à mon capital. Ainsi qu'ils ont saisi tous mes biens, c'est-à-dire les congélateurs, certaines chaises. C'est dit que mon vacal a tout perdu. En quelques mois, il a dû fermer son bar. Il n'est pas seul dans cette situation. De nombreux bénéficiaires de microcrédits ignorent les règles du jeu. Ils ont l'impression que les banques ne disent pas la vérité aux clients. Bien souvent, l'information leur est pourtant donnée au moment de l'octroi du crédit. Mais par ignorance du rouage bancaire, ils sont surpris par la suite de constater que les dispositions de remboursement du crédit sont curieusement en leur défaveur. L'une dirige un petit restaurant en Lingala. Elle envisage de le fermer faute de remboursement du crédit qu'elle avait contracté. Même situation pour Patrick, opérateur dans une cabine de communication à la Gombe. On les écoute.
$250. J'ai contracté un crédit de $250. Pour moi, c'était une manne tombée du ciel. Mais à la longue, quand on a commencé à rembourser, moi et mes amis sont tombés en faillite. Par exemple, pour les $250 que j'ai contracté, j'ai payé l'argent de la fiche d'inscription. Ensuite, on m'a exigé de verser $30 dès la première semaine. On n'a même pas de marge de manœuvre pour épargner. Je me rends compte que c'est la banque qui nous exploite en prenant même le taux que nous avons aujourd'hui. Ma sœur est un an plus à cause de ce cas.
Et il en a autant d'argent. Le crédit que j'ai reçu au début m'a beaucoup aidé. Mais après, je me suis rendu compte que le délai de remboursement était court. Et à la fin, j'ai constaté que mon capital a baissé. J'avais emprunté $200 américains et on m'a exigé de rembourser $35 chaque crédit. Aujourd'hui, c'est la faillite et on ne peut rien.
Comment alors mieux informer ses commerçants sur le secteur bancaire et protéger ses clients qui se sentent soumis? Le point de vue de l'analyste économique Aïkite.
Je pense que la plus grosse faiblesse dans notre pays, c'est que les banques sont arrivées assez vite et nous n'avons pas fait d'efforts pour éduquer les gens au crédit. Il faut savoir à quoi on s'engage.
Il est clair que la microfinance présente une opportunité pour de nombreuses entreprises, mais c'est une nouvelle pratique dans la vie économique congolaise. Octroyer un prêt à des individus sans revenus fiables et mal informés sur les règles du jeu risquent d'aggraver la situation financière.
Eric Mongane, je suppose que vous avez très bien suivi ce reportage. L'accès au crédit, condition pour développer l'économie, une des conditions pour développer l'économie d'un pays, mais hélas, les crédits à court terme qui sont octroyés jusqu'ici ne font pas encore l'affaire. Est-ce que vous avez une expérience dans le secteur?
Merci beaucoup. Peut-être une petite expérience par ma formation et mon cursus dans les affaires. Mais le premier principe, il faut respecter les engagements. Et si vous voulez respecter les engagements, sachez quel engagement vous prenez. Et si vous n'êtes pas à mesure de bien maîtriser l'engagement que vous prenez, prenez conseil. Et si vous prenez conseil, il y a des mécanismes, des sociétés, des ONG et des maisons spécialisées dans le conseil. Et lorsque vous avez pris l'engagement et vous avez signé, vous devez le respecter. Par contre, les mécanismes de contrôle aussi de ces microfinances, c'est la Banque Centrale. Donc la Banque Centrale doit vraiment s'impliquer au contrôle des taux d'intérêt et au contrôle aussi de l'information qu'on donne aux clients avant de s'engager quelque part. En tout cas, la première chose, respecte l'engagement. Et si vous n'êtes pas sûr de respecter l'engagement, abstenez-vous.
Et ainsi prend fin Panorama économique de cette semaine. Merci à vous, Eric Monga, d'avoir accepté notre invitation depuis Lubumbashi. Merci, Nicole Ngata, de nous avoir accompagnés dans cette émission. Retrouvez ce panorama sur le site www.radioocapi.net. Prochain rendez-vous avec l'économie sur Radio Capi, c'est lundi, 18h15, heure de Kinshasa. Bon week-end.